Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux à ce café scientifique, dont la thématique est « Famille, lieu de tous les dangers ». Un vaste programme, comme on le verra. Je propose de procéder de la façon suivante. J'ai d'abord demandé à nos orateurs de se présenter rapidement et de nous expliquer quel est leur rôle dans la problématique de la violence domestique. Ensuite, je propose de faire un deuxième tour de table pour cerner le phénomène d'un point de vue quantitatif, savoir de quoi on parle, est-ce que c'est rare, est-ce que c'est fréquent, est-ce que c'est quelque chose auquel on peut tous être confrontés un jour ou l'autre, ou bien non. Puis ensuite, on se lancera dans le vif du sujet. Alors, Madame Jackie Erard, peut-être.
Merci beaucoup. Donc, Véronique Jackie Erard, j'ai une formation en psychologie et en criminologie. Et ça fait bientôt 10 ans que je travaille sur la question des violences envers les femmes, principalement les violences domestiques et les violences sexuelles. Et j'ai aussi la chance d'avoir travaillé plus directement au contact aussi bien des victimes de violences que des auteurs en Suisse et aux États-Unis.
Merci. Bonsoir, je m'appelle Francis Vandal, je suis intervenant au service pour auteurs et auteureux de violences conjugales du canton de Neuchâtel. J'ai une formation de soins psychiatriques d'abord et j'ai fait une formation spécialisée en intervention dans le domaine de la violence conjugale. Notre service est actuellement basé et logé sur le site de Préfargier au CNP dans deux petits bureaux que nous occupons et vous allez vous rendre compte de l'importance de notre existence mais aussi de la modestie sur laquelle actuellement nous déployons notre activité.
Olivier Gagnat, au bénéfice d'une formation en police scientifique et criminologie, chef de la police judiciaire depuis 17 ans dans le canton de Neuchâtel, policier depuis 23 ans, et j'ai eu la chance, pour nous ramener au sujet, de vivre la genèse politique de la prise de conscience de l'importance des violences conjugales dans le canton de Neuchâtel, avec la création d'une loi à laquelle j'ai pu, ou l'élaboration d'une loi qui a finalement été acceptée, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, à laquelle j'ai eu le bonheur de participer. J'y reviendrai tout à l'heure.
Bonsoir, je suis Sophie Aquilon, responsable de Solidarité Femmes, unité de la Fondation en faveur des adultes en difficulté sociale, qui agit sur 4 volets en lien avec la violence conjugale, une permanence téléphonique tous les jours de l'année, une consultation ambulatoire dans laquelle nous recevons des femmes victimes de violences conjugales avec une antenne sur Neuchâtel, une antenne sur la Chaux-de-Fonds, un foyer d'hébergement pour 4 femmes avec leurs enfants, et puis un volet prévention, information, formation, où nous intervenons dans les écoles post-obligatoires ou dans différentes associations auprès de professionnels du réseau de la santé et du social, notamment.
Merci beaucoup. Pour cerner un peu la problématique, j'aimerais que chacun de nos intervenants, dans la mesure du possible, nous donne quelques chiffres par rapport à ce que ça représente pour lui, la violence domestique. J'imagine qu'il y a différents instruments qui permettent de mesurer ça, plus ou moins bien, parce que j'imagine qu'il y a aussi une grande partie de ces problèmes-là qui restent cachés. Madame Jacquet.
En fait, j'avais assez envie de commencer par rappeler que la question des chiffres, elle n'est pas si anodine que ça. C'est vrai que ce n'est pas forcément la plus intéressante, ça paraît parfois abstrait, surtout quand les gens ne sont pas d'accord entre eux. Mais je crois qu'en tant que chercheur, on a une responsabilité au niveau des chiffres qu'on va avancer. Et on a un peu tendance à oublier que, malheureusement, dans la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui, pour qu'un problème soit considéré d'importance publique, devienne un problématique, que ce soit de santé publique, soit un problème social, soit un problème politique, il faut qu'il ait une certaine ampleur. Donc la manière dont on va le mesurer, ça va être critique. Et comme partout, il y a des gens qui font bien leur travail et des gens qui font moins bien leur travail. Alors, ce qui est peut-être un peu particulier avec les violences dans le couple, c'est que ça se passe souvent derrière des portes closes. Alors, c'est vrai qu'on va avoir différents instruments et on va avoir les statistiques qu'on dit officielles. Donc, tout d'abord, les plus connues, les statistiques de police, les statistiques judiciaires, les statistiques de condamnation. mais aussi les statistiques des institutions, les statistiques des institutions d'aide aux victimes, les statistiques des services sociaux. Je vous parle peut-être pas du contenu, je vais laisser mes collègues exposer les chiffres qui les concernent, mais c'est vrai qu'en tant que chercheur, on est amené à travailler sur ces indicateurs, soit pour des questions d'ampleur, donc savoir combien de personnes sont touchées, mais aussi pour savoir un peu quelles sont les affaires qui parviennent à la connaissance de quels services, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Je crois que ce qui est important de rappeler d'entrée, c'est que ça paraît probablement clair pour tout le monde qu'on ne va pas avoir accès à l'ensemble des victimes, l'ensemble des auteurs, mais on n'a pas non plus accès à une proportion qui est égale. C'est-à-dire que ce n'est pas un petit peu du tout qui arrive dans chaque service. Dans chaque service, on a des personnes qui ne présentent pas nécessairement les mêmes caractéristiques. Donc les conclusions qui sont tirées de travaux qui utilisent des données policières ou de travaux qui utilisent des données des services sociaux ou de travaux qui utilisent des données des foyers d'hébergement, présentent parfois des profils légèrement différents. Ça ne veut pas dire que les gens ne savent pas forcément ce qu'ils font, ça veut dire aussi qu'on n'a pas forcément le même type de personnes qui arrivent dans les différents services. Alors c'est vrai que pour pallier un peu à ce problème-là, depuis déjà la fin des années 70, on s'est attelé à mesurer cette violence différemment, donc à mesurer autre chose que la violence enregistrée officiellement, en menant des sondages. Alors, je pense que vous vous rendez bien compte que appeler les gens au téléphone et leur dire « Bonjour, ça va, ça se passe bien de votre couple », ça ne marche pas nécessairement bien, même si c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et il y a tout un pan de recherche en fait, dans ce domaine qui est consacré uniquement au savoir, à la meilleure manière de poser les questions, à qu'est-ce qu'il faut dire avant, à quand est-ce qu'il faut appeler les gens, comment, qui doit les appeler, etc. Et c'est vrai que petit à petit, au fil des années, on a développé certaines règles de l'art pour mesurer ces types de violences. Maintenant, je pense dans le contexte actuel où non seulement il y a une bonne partie des gens de cette salle qui n'ont plus de ligne fixe, donc qui sont plus joignables pour un sondage, l'autre partie qui, dès qu'ils voient institut de sondage sur le numéro d'appelant, vont raccrocher ou ne pas répondre, les sondages sur les violences dans la famille passent par le même biais. Donc pour pouvoir savoir ce qui se passe, il faut pouvoir atteindre les gens. Donc déjà, à ce niveau-là, on a un gros problème. Ensuite, ça demande un certain temps. Les meilleures enquêtes prennent en moyenne une heure. Donc il faut que les gens aient une heure à consacrer pour répondre aux questions des interlocuteurs par téléphone. Il faut qu'ils soient en mesure de le faire aussi, donc qu'ils soient dans une situation suffisamment sécuritaire. Et puis encore faut-il qu'on leur pose des bonnes questions, etc. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de biais. En ce qui concerne la Suisse, plus précisément, on a quelques études, mais on n'en a pas tant que ça. On a une bonne étude qui mesure les violences envers les femmes dans le couple. On n'a pas, à l'heure actuelle, d'études qui mesurent les violences envers les hommes dans le couple, qui soit une étude que je juge faite selon les règles de l'art. Ça, c'est vraiment quelque chose qui manque à l'heure actuelle. Donc, je peux vous donner les chiffres pour les femmes. Donc on estime en fait qu'en moyenne, on a une femme sur cinq qui est victime de violences physiques ou sexuelles dans le cadre du couple et deux femmes sur cinq qui sont victimes de violences psychologiques de la part d'un partenaire cours de leur vie.
Okay. Ouais.
Et par rapport, pour vous donner en fait un ordre de grandeur par rapport aux statistiques officielles, on estime qu'en général, il y a à peu près une violence dans le couple sur trois qui est portée à la connaissance des autorités officielles et un cas de violence sexuelle sur six qui est porté à la connaissance des autorités officielles. Donc ça vous donne en fait un peu une idée des chiffres qui échappent aux statistiques dites officielles.
Et peut-être juste en comparaison internationale, la Suisse se situe comment à peu près ?
Alors, la Suisse se situe dans la moyenne, donc 20% pour les violences physiques et sexuelles dans le couple. Le dernier sondage qui a été mené dans les 28 pays membres de l'Europe arrivait à 23%. Et on en est à 40% pour les violences psychologiques et ils arrivaient à 43% dans les 28 pays membres. Donc, il n'y a pas vraiment, on est dans la moyenne internationale à ce niveau-là.
Super, merci beaucoup. Monsieur Vandal,
Est-ce que vous avez quelques chiffres par rapport aux personnes que vous voyez dans votre service ?
Oui, je les ai préparés, bien entendu. Peut-être en préambule, signifier quand même que la population qui nous concerne, les auteurs et les auteureux de violences conjugales, ce n'est pas une population qui est très demandeuse d'aide, qui va se mobiliser pour chercher des solutions à ces difficultés de gestion de la violence, de la colère, de la rage, des emportements, etc. Et c'est une population qui est difficile à toucher, difficile à atteindre. Nos chiffres sont donc, je le dis, par rapport à l'ampleur du phénomène de la violence conjugale, relativement modestes, et nous n'aspirons qu'à les augmenter. Nos statistiques, depuis 2011, nous sommes rattachés au CNP, ce qui nous a permis d'avoir un outil statistique assez précis et assez fiable. Alors, vous êtes bien tous bien assis, très bien. En 2011, nous avons eu des contacts avec 17 auteurs. Avoir un contact avec un auteur, ça ne signifie pas l'intégrer dans un programme thérapeutique, ça signifie le rencontrer au moins une fois pour lui proposer une évaluation de sa situation, de ses comportements, et lui donner quelques informations sur ce qui est possible de faire dans ce type de situation. En 2012, nous avons rencontré 26. En 2013, 37, et cette année est particulièrement faste, puisque entre le 1er janvier et le 30 juin 2014, nous avons rencontré 41 personnes, ce qui s'augurait effectivement d'une plus grande visibilité, d'une plus grande lisibilité de notre service que nous présentons chaque fois comme un service d'aide. Nous ne travaillons pas pour la justice, nous ne travaillons pas pour la police, nous ne faisons pas d'enquête particulière, nous venons en aide à des personnes qui ont de la difficulté à gérer des comportements qui se présentent comme dangereux. Voilà, ça c'est nos chiffres SAVC. Nous sommes rencontrés avec les autres acteurs romans de cette lutte particulière contre la violence conjugale, de cet axe particulier de la lutte contre la violence conjugale la semaine dernière. Et à vrai dire, dans les échanges que nous avons eus entre collègues, les chiffres sont relativement comparables d'un canton à l'autre, et nous rencontrons tous la même difficulté, c'est toucher les auteurs, atteindre les auteurs, être en contact avec les auteurs pour leur signifier à la fois que ce comportement n'est pas acceptable socialement, mais surtout qu'il existe des moyens d'en sortir. Aujourd'hui, nous entretenons, donc nous avons un groupe homme, nous avons un travail. Tout à l'heure, on développera un petit peu la méthodologie du SAVC, mais nous travaillons avec un groupe de 9 hommes. Nous travaillons avec un groupe de 2 femmes. Nous avons 2 auteurs en évaluation, donc dans un processus qui intervient avant l'intégration dans le travail thérapeutique de groupe. Et nous avons une file active de 10 personnes, c'est-à-dire que nous sommes en contact avec 10 personnes qui ont déjà terminé le programme thérapeutique, mais avec qui nous restons en lien pour faire de l'évaluation ponctuelle à 3, 6 et 12 mois après la fin du programme thérapeutique.
Toujours dans l'ordre de grandeur ? OK. Donc, au niveau de l'activité policière, j'ai ici la statistique par rapport au nombre d'affaires générées. Depuis 2004, la création de la loi, donc on avait un changement à partir de ce moment-là, puisque tous les policiers avaient été formés, puisqu'on avait informé la population, on a fait beaucoup d'informations pour faire connaître cette loi, évidemment, en amont et en aval. Donc on a d'abord eu un bon succès, puisqu'on avait 390 affaires en 2005, qui ont généré 708 infractions. Donc une affaire pouvant comprendre plusieurs infractions, vous imaginez bien, voies de fait, menaces, injures, parce que ces infractions sont souvent conjointes. Et puis ensuite, on a eu un rythme de croisière aux alentours de 300, 400, 380 affaires jusqu'en 2011, où là, on a une diminution. Tiens, c'est l'introduction d'une nouvelle loi de procédure, le nouveau code de procédure pénale, qui est introduit à ce moment-là, qui a été source d'énormément de frustration chez les policiers. Peut-être que c'est en lien, mais là, on quitte cette moyenne qui était relativement stable et on descend à 230 affaires, qui ont généré elles-mêmes 564 infractions. Puis on remonte un petit peu à 260 affaires. Il y en a eu 260 en 2012, 260 en 2013, avec entre 685 et 715 infractions. Actuellement, au moment où je vous parle, aujourd'hui, puisque j'ai tiré ce petit graphique aujourd'hui, nous avons traité 182 affaires depuis le début de l'année, donc on arrivera aux alentours de 230. On ne sera pas dans une augmentation, loin s'en faut. Ces statistiques sont très difficiles à interpréter, puisque on a un effet d'annonce. Ce n'est pas un délit que va chercher la police, bien évidemment. Ce sont toujours des victimes qui nous les annoncent, ou des voisins, ou des personnes qui ont été témoins ou tentés de manière contemporaine à l'infraction, ou des infractions qui nous sont annoncées au moment où c'est froid, quelques jours après, quelques semaines après, quelques mois après les faits. Donc l'action de la police proactive est pratiquement nulle dans ce type d'affaires. Donc, et compte tenu du fait qu'il y a un chiffre noir, on ne sait pas finalement, au regard de ces chiffres, on dit une sur trois est annoncée à la police, je n'y crois pas. Je n'y crois pas quand je regarde le type d'infractions qui sont les plus dénoncées. Ce sont les voies de fait, les menaces et les injures. Et vous imaginez que dans un couple, si toutes les injures étaient dénoncées à la police, je pense qu'il y aurait quelques mètres ou quelques kilomètres plutôt de queue au guichet de police pratiquement chaque jour. Idem pour les menaces, idem pour les gifles où je te tire les cheveux, où je te pousse dans le divan de manière rageuse. Sachez quand même que 73% des infractions de menaces, voies de fait et injures par rapport à tout le reste du code pénal sont faits de cela. Donc il reste 26% du nombre d'infractions pour tout le reste. Et quand on passe aux lésions corporelles simples, tiens, des violences exercées qui laissent un stigmate, l'œil au beurre noir, le nez cassé, une dent cassée ou une lèvre qui saigne, on n'a que 4% du total des infractions. Donc je vous parle d'un total d'environ 600 à 700 infractions. Que 4%. On peut s'en réjouir. Et les contraintes et les dommages à la propriété, l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, les violations de domicile vont de manière décroissante. Les lésions corporelles graves sont extrêmement rares. Je crois qu'il y en a, si je vois bien, 0,07% du total des infractions dénoncées. Donc, on a affaire à une prise en charge d'un volume important d'affaires qui nous coûte environ 5 équivalents plein temps par rapport aux 386 policiers qui travaillent dans ce canton. Je ne parle pas des incidences sur la justice, là, évidemment, mais environ 5 équivalents plein temps, mais pour des affaires de moindre importance. Et ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas une importance pour les victimes, bien entendu, mais moindre importance sur un plan pénal. Donc on met beaucoup d'efforts pour que ces affaires ne dégénèrent pas, en quelque sorte. Et une affaire nous prend un peu plus de 6 heures de travail, ça dépend, ça c'est en moyenne, ça dépend de la complexité des affaires. Alors voilà pour un aperçu global. Vous aurez peut-être des questions plus spécifiques par rapport aux nationalités, culture, lieu de naissance, habitation et autres variables qui peuvent être des variables qui peuvent interpréter, nous permettre de mieux comprendre finalement ce qui se cache derrière les violences conjugales. Un petit bémol dans les profils des victimes, il manque cruellement le profil des statuts sociaux élevés. Il manque cruellement celui qui est lié au statut social élevé, c'est souvent un degré d'instruction élevé. Donc nous avons plutôt affaire à des statuts de bas revenus avec une instruction précaire. Donc là, on a tout le tabou finalement du candidat-on qui se cache vraisemblablement là derrière, parce qu'on sait dans les sondages de victimisation que la violence est bel et bien présente aussi de manière importante dans toutes les couches de la population. Donc là, on a encore des personnes qui sont parfaitement inatteignables avec le dispositif actuel.
Alors juste pour rebondir sur vos derniers propos, à Solidarité Femmes, on rencontre en consultation des femmes d'un niveau socio-économique et culturel plus élevé. Mais effectivement, on peut aussi constater qu'elles ont d'autres ressources pour faire face à ce qu'elles vivent que de passer par la voie de la justice éventuellement. Ou que c'est encore trop tabou effectivement pour elles, mais elles ont aussi d'autres moyens d'action généralement pour pouvoir se sortir de leur situation.
Est-ce que vous pourriez peut-être préciser ?
Elles sont souvent plus entourées. Mais même si la violence conjugale entraîne un isolement au moins temporaire, souvent elles ont une capacité à pouvoir sortir de cet isolement plus facilité. Ce sont quand même souvent des femmes actives et puis qui ont un réseau, une fois qu'elles partent de la maison, un réseau social qu'elles peuvent activer et qui peut être très soutenant. Et puis des capacités financières généralement un peu différentes aussi. Pour les chiffres de solidarité femmes, je suis obligée de les mettre directement en corrélation avec nos effectifs. Nous sommes une petite unité, nous sommes 5 intervenantes pour un équivalent plein temps de 2,6 postes. Nous faisons de l'hébergement, donc une présence en foyer tous les jours de l'année, ainsi que de la permanence téléphonique tous les jours de l'année. Et puis ensuite de ça, on assume des prestations en consultation sur le haut et le bas du canton, et puis de la prévention de l'information, ben, comme ce soir. Donc on voit, on a une moyenne relativement stable de 100 femmes vues par année, mais on n'a pas les moyens d'en voir plus non plus. Et ça veut dire aussi qu'on a des moments où on est atteignable et des moments où on l'est peu ou pas. Donc je pense qu'il y a toute une partie de femmes qu'on ne peut pas rencontrer aussi simplement par rapport à notre disponibilité. Nous voyons environ 100 femmes par année, et puis quelque chose d'assez stable aussi, on a une vingtaine de situations qui sont des anciennes situations et 80 nouvelles situations chaque année. On héberge environ 20 femmes par année avec 1 à 2 enfants. Je dirais une moyenne de 1-5 enfants. Voilà, voilà. Donc, non, mais il y en a qui viennent avec 2, puis il y en a qui viennent qu'avec 1, et il y en a qui viennent avec 3, puis d'autres sont. Voilà, en gros, pour les chiffres.
Super, merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Faites-moi des grands signes de la main, monsieur.
Est-ce que c'est harmonieux au cours de l'année, ou bien il y a des périodes avant les vacances, ou bien des précipitations exceptionnelles? Je m'adresse surtout à la police.
Oui, il y a une grande régularité. Donc, on enregistre un petit peu moins de... On a pratiquement la parité avec une affaire par jour, donc on est un petit peu en dessous de 30 affaires par mois, à peu près. Par contre, selon les saisons, effectivement, notamment durant l'été, les hommes en particulier ont une propension à rester plus longtemps sur les terrasses, autour des grillades, à boire de l'alcool. Et comme l'alcool est un des vecteurs de la violence, pas le vecteur essentiel, hein, il n'est pas présent dans toutes les affaires de violence conjugale, mais à peu près à raison de 30% quand même, en tant que raison ayant déclenché les violences, ou entrant dans le mécanisme en tout cas des violences, alors effectivement quand il fait beau, quand il fait chaud, on a un peu plus d'affaires que quand il fait froid et que les gens sont, ou pendant les périodes de football aussi malheureusement. Donc quand il y a le mondial, il y a plus de violences conjugales que quand il n'y a pas la période de mondial. Mais sinon, considérez qu'il y a une régularité.
Vous avez parlé de la situation socioculturelle des personnes, mais qu'en est-il de l'âge?
Alors, peut-être, je m'excuse, peut-être plus largement, qui est l'auteur type de violences domestiques?
Compliqué de créer un auteur type dans le sens où souvent on vit des grands écarts entre des situations sociales extrêmement diverses, entre des niveaux de développement socioculturel aussi assez divers. S'il est vrai qu'il y a une majorité d'une population plutôt paupérisée, il arrive régulièrement que nous touchions aussi des gens de classe supérieure, enfin, si on peut le dire comme ça. Je peux citer un directeur de marketing, 3 ingénieurs, enfin, des gens qui quand même vivent dans des conditions beaucoup plus confortables que d'autres. Alors que dans le groupe, on va trouver des personnes extrêmement paupérisées, je redis, chômage, aide sociale, assurance invalidité, affection chronique, enfin des gens qui ont des conditions de vie difficiles, c'est vrai. J'arrive pas à dresser un portrait type. La tranche d'âge, 19 à 45 ans, c'est la tranche la plus représentée. 19 à 45 ans, mais là aussi, c'est extrêmement large.
En fait, c'est 10% de la population globale des auteurs et des victimes qui est âgée entre 20 et 45 ans à raison de 10% par tranche de 5 ans. Donc c'est extrêmement régulier. Donc c'est à peu près le moment où on se met en couple. Voilà, l'équilibre est difficile à trouver. Jusqu'au moment où on en a marre de son couple, où l'équilibre est dur à garder. C'est un peu une caricature, mais c'est ça depuis que je suis ces violences conjugales. Donc je constate la même chose.
Il y a peut-être un aspect caractéristique. Il y a beaucoup de violences qui débutent lors de la grossesse ou de la primonatalité, à la naissance du premier enfant, qui est aussi de nouveau une rupture d'équilibre. Et surtout, pour l'auteur en l'occurrence, un sentiment aigu d'abandon, de n'être plus le centre de l'attention de son épouse notamment.
Je m'imagine qu'il y a sûrement une résistance culturelle ou personnelle jusqu'au moment où on demande du secours. Quel est le temps moyen pour sortir de ces moments difficiles? Parce qu'il y a quand même un risque dans certaines cultures.
Alors, on a très peu d'informations là-dessus, mais on sait qu'en moyenne, pour qu'une femme quitte une relation abusive, il peut y avoir jusqu'à 6 tentatives. Donc il peut y avoir des départs, des retours, on part, on regarde si ça marche, si c'est possible, ou bien des réconciliations, etc. Mais ça peut s'étendre sur des années. Mais on a très peu d'informations, à part voilà, des anecdotes où les intervenants ont des patients en tête ou des clients en tête et des choses comme ça, mais ce n'est pas quelque chose qui a été mesuré. Maintenant, c'est vrai que ça va varier, que ce soit du fait des personnes elles-mêmes, donc d'aller chercher de secours, ou bien, comme on disait avant, ben voilà, si vous habitez dans un immeuble et que vous faites du bruit, il y a plus de chances qu'un voisin appelle la police et que du coup vous rentriez, en fait, si vous voulez, dans le système, que si vous habitez dans une villa isolée où ben, vous allez, en guillemets, déranger personne. Donc il y a aussi ce biais-là qui fait que les personnes sont identifiées différemment selon les contextes socioculturels.
Mais par contre, il n'y a pas de corrélation avec une culture ou une autre. C'est une même situation pour toute culture, dans la manière dont on approche les victimes et le temps qu'elles prennent et les tentatives qu'elles peuvent renouveler pour quitter la situation de violence conjugale.
Mais alors, est-ce que... Pardon.
Non, juste mentionner que j'ai eu une étudiante de master qui a étudié les cas annoncés à la police, donc qui ne sont pas représentatifs des violences ou des... de manière générale, hein, des violences conjugales de manière générale. Mais là, ça allait de « la première violence est insupportable, je vais l'annoncer à la police », jusqu'à des violences, mais régulières et à de réitérées reprises pendant plus de 20 ans. Donc c'est une échelle très très large, hein, ça dépend véritablement des situations personnelles des personnes, leur échelle de valeur, mais on ne pourrait pas la ramener à la nationalité ou quoi que ce soit, ni à la religion. Ces facteurs-là n'auraient plus aucune incidence sur un facteur explicatif du pourquoi on tolère des violences qui sont exercées sur sa propre personne, sur son intégrité, pendant autant d'années, à autant de reprises. Donc il y a quelque chose de mystérieux encore là. Il faudra peut-être gratter en criminologie.
Mais alors, est-ce que je pourrais vous poser la question que tout le monde se pose en permanence et qui est apparemment une mauvaise question, mais je vais la poser quand même. Pourquoi est-ce que les femmes victimes de violences domestiques ne quittent pas leur partenaire?
Parce que c'est difficile. C'est difficile parce que les femmes qui ont vécu des violences conjugales pendant... Alors, le laps de temps est toujours variable l'une à l'autre, mais généralement, c'est un phénomène qui se met en place petit à petit, avec une relation d'emprise qui s'installe. Donc quelque chose qui n'est plus égalitaire. Hein. Je m'excuse d'avance pour les hommes dans la salle. Je parle souvent de victimes comme étant des femmes. L'inverse existe aussi. Ça se passerait de la même manière si l'homme est victime. Mais là, en l'occurrence, moi, je m'occupe des femmes victimes, donc c'est d'elles que je parle. Donc une femme qui a vécu des violences pendant plusieurs années ou pendant longtemps avec une relation d'emprise qui se met en place, déjà, il n'y a plus une notion d'égalité et puis elle a une vision de la réalité qui est déformée. Et puis souvent quand même, ça lui est répété que c'est sa faute, qu'elle est responsable des comportements violents de son conjoint, que c'est elle qui les génère, qui les provoque. Et puis, ça en vient à être son quotidien et sa réalité et sa croyance. La plupart des femmes qui viennent nous voir pensent réellement qu'elles ne sont pas dans le juste. Enfin, il faut vraiment, enfin, y a une espèce de dissonance cognitive à un moment donné qui les fait qu'elles vont quand même voir quelqu'un ou que ça devient trop insupportable. Mais longtemps, elles ont cru que c'était elles qui avaient tort. Donc,
Moi, je vous donnerai un exemple d'une recherche à laquelle j'ai participé récemment, où on a en fait suivi des femmes dans des relations de couple violentes pendant 90 jours. Et chaque jour, on leur a demandé en fait, d'inscrire ce qui se passait, de savoir s'il y avait eu des violences psychologiques, des violences physiques, des violences sexuelles, etc., ce qui s'était passé, aussi d'autres éléments comme la consommation d'alcool, comment elles se sentaient, etc. Et ce qu'on a observé, c'est que pendant 60% des jours pour lesquels on a des données, ce sont des jours où elles ne rapportent pas de violence. Donc, il y a aussi, je crois, à ce niveau-là, une image qu'on se fait d'une relation abusive, comme quoi c'est des violences sans discontinuer, qu'il n'y a rien d'autre, etc. Et je crois que c'est pas... ça, c'est un peu l'image qu'on a dans les médias aussi, quand vous regardez des téléfilms sur les violences dans le couple. C'est d'une extrême brutalité, c'est tout le temps, etc. Et du coup, on a un peu de la peine à réconcilier cette image-là avec le fait que des personnes acceptent ce type de situation. Or, dans la réalité, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des jours où ça se passe bien, et si vous discutez avec des victimes, enfin, en tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai eue, elles ne veulent pas nécessairement mettre fin à la relation, elles veulent mettre fin aux violences. Et renoncer, en fait, à ce que vous avez construit, à ce qui a été fait en commun, à ce qu'était la relation avant, bah, ça demande un certain nombre... ça quand même demande un effort. Et ça, c'est sans compter ben, ce que vous mentionnez, Sophie Aquilon, avant, tous les impacts au niveau psychologique. Donc, on sait que c'est des personnes qui souffrent de dépression, d'anxiété, de stress post-traumatique, de dissociation. Donc, ça, c'est des modifications qui se passent au niveau cognitif qui ont une influence sur simplement les possibilités qu'on s'envisage, les ressources qu'on qu'on imagine, l'estime qu'on a de soi-même, etc. Et le fait de se dire ben, « je peux m'en sortir toute seule » ou « il y a une alternative à ce que je vois ben, », c'est quelque chose qui, une fois dans la relation, n'est pas si facile que ça.
Ben, si je peux encore rajouter, je reviendrai aussi sur l'isolement dont on parlait tout à l'heure. Donc souvent, au fil du temps, dans la relation, ce sont des femmes plus isolées, donc qui ont peu de moyens d'actionner un entourage pour les soutenir, et puis qui ont peu de ressources, souvent financières aussi. Ce qui a aussi un impact. Et puis les enfants. Les enfants, et ça, ce n'est pas un des moindres arguments pour rester dans la relation.
C'est assez mystérieux, effectivement, cette question de se dire, ben voilà, il y a des actes détestables, haïssables qui sont commis, et probablement la femme, au moment où elle subit ces actes, elle peut avoir toutes les bonnes motivations pour mettre fin à la relation. Il ne faut pas oublier que l'auteur, s'il est capable d'actes tout à fait répréhensibles, haïssables, détestables, est aussi capable de présenter d'autres facettes, d'autres aspects de sa réelle personne, de sa personnalité, de qui il est vraiment, et que, après l'explosion de violence, les remords aidant, le dialogue qui reprend, les demandes de pardon, les promesses, les compensation, enfin tout ça est assez aussi partie prenante dans la pesée du pour et du contre que la femme va faire au moment où elle va se dire est-ce que je me sépare, est-ce que je reste avec cet homme.
Il y avait une question au fond de la salle il y a environ 5 minutes. Je m'excuse, j'ai pris un peu de retard. Monsieur ?
Dans les statistiques que vous avez mentionnées au début, j'ai retenu si c'est juste une femme sur cinq est victime de violences conjugales, c'était ça ?
Une femme sur cinq est victime de menaces, violences physiques ou violences sexuelles de la part d'un partenaire dans une relation de cohabitation.
Ah d'accord, ok, pardon. Okay. Ah, parce que j'aurais juste voulu qu'on clarifie, enfin, comment dans ces statistiques, dans le milieu scientifique, comment est-ce qu'on définit violence conjugale en fait ?
C'était juste alors... Oui, alors bah, justement, ça c'est un problème aussi, c'est-à-dire que vous allez avoir sous des étiquettes... Alors, c'est vrai qu'on a dit violence domestique, violence conjugale. Ben voilà, souvent, on présente des chiffres, notamment dans les médias, ou des chiffres qui sont relayés, etc. Et vous n'avez pas vraiment ce qu'il y a là derrière. Quels sont les comportements qui ont été inclus, etc. Je donnerai un exemple très bête, mais on sait que le fait de poser 3 questions ou 20 questions, ça va avoir une influence sur le nombre de réponses positives. Donc simplement, une recherche qui utilise plus de questions pour mesurer le phénomène aura un taux de prévalence plus élevé à la fin. Donc c'est ça qui est un peu délicat, et c'est pour ça qu'il faudrait toujours un peu aller voir ce qu'il y a derrière. Donc c'est vrai que les chiffres que je vous ai donnés là, ce sera des menaces, des actes de violence physique, donc tirer les cheveux, pousser, taper, donner un coup de pied, tentative d'étranglement, etc. Violence sexuelle, donc tentative de viol, viol, attouchement non désiré, ce genre de choses. Et ça, c'est quand même une étude qui remonte à 1995 en Suisse.
Vous avez mentionné avant les demandes de pardon et les promesses, etc. Et je me demandais justement si ceux qui promettent, ceux qui demandent pardon toujours, est-ce qu'ils y croient à leurs promesses ou pas ?
Bien sûr, fort probablement. Enfin, en tout cas, les auteurs que nous rencontrons sont extrêmement sincères dans leur remords, dans leur repentir. Ils sont extrêmement sincères dans leurs regrets. On les voit pleurer, on les voit s'effrouler, s'effondrer quand on leur parle du lien conjugal qui est mis en péril, quand on leur parle du lien familial, de l'équilibre familial qui est mis en péril. Ils peuvent tout à fait décompenser, se décomposer. Bien sûr qu'ils sont sincères. Malheureusement, ça fait partie d'un cycle un peu immuable et un peu dangereux qui se répète inlassablement et qui, généralement, va en s'accélérant, en s'aggravant. Donc on dit souvent que le cycle de la violence procède comme ça en répétition et que la violence est toujours plus importante et toujours plus rapprochée.
Dans le cadre de certaines violences, est-ce que vous retrouvez des faits extérieurs au couple, des causes extérieures au couple ?
Alors, je pense que... Merci de poser la question des explications et des facteurs de risque. Je pense que mes collègues de table pourront chacun apporter aussi leur expérience. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas une cause unique, il y a de multiples facteurs, et c'est pas parce qu'il n'y a pas non plus de déterminisme. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il y a un facteur qui est présent que c'est dans tous les cas la même chose. On parlait de l'alcool avant, c'est vrai que l'alcool peut être un facteur de risque, mais c'est pas nécessairement. Donc on considère généralement qu'il y a des facteurs au niveau de l'individu, donc de son histoire de vie, de ses caractéristiques. Il y a des facteurs au niveau de la relation, du contexte, de la famille, etc. Il y a des facteurs au niveau de la communauté. Donc, vous avez des travaux plus récents qui montrent, alors peut-être moins en Suisse, mais en Amérique du Nord, par exemple, des facteurs liés au quartier. La cohésion sociale d'un quartier, la mobilité résidentielle peut être un facteur aggravant pour ce qui se passe dans les familles. Puis, vous avez bien sûr tout ce qui se passe au niveau de la société, l'existence de lois, les sanctions qui sont posées, les réponses. Donc, ce n'est pas du tout uniquement au niveau de l'individu. Au contraire, il y a de multiples facteurs de risque. Et donc, pour rebondir sur ce que disait Joël en préambule, il y a de multiples pistes d'intervention et de prévention.
Est-ce que vous aviez quelque chose en tête en particulier ?
Non. D'accord.
C'est que je sais, j'ai eu des connaissances, justement, le fait de violence était l'apport de problèmes externes et non pas directement du couple. Donc il y avait un déclenchement, enfin une pression sur une personne, et malheureusement, le seul défouloir était à la maison. Voilà. C'est ça.
Comme par exemple au travail. Oui, le fait de perdre son emploi, de ne pas pouvoir payer ses factures, ça peut être exogène au couple, à la relation intrinsèque du couple. C'est ça que vous disiez.
Ce que je veux dire, oui, c'était par exemple une compagnie, ou même une compagnie, sans que ce soit dans le travail ou des amis, qui ont des comportements agressifs. Malheureusement, une personne qui rentre à la maison, c'est sur la lancée, se comporte agressivement envers sa compagne ou même les enfants, parce qu'on ne parle pas des enfants non plus.
Non, alors tout à fait.
Sur les enfants qui sont aussi dans le couple. Ça, c'est...
De la même manière, oui.
Il peut y avoir justement quelques violences peuvent être malheureusement créées par une pression psychologique vis-à-vis d'une personne. Quoi, mais pas directement vis-à-vis de la personne, c'est parce qu'elle a subi, enfin de sa compagne ou de son compagnon, mais parce qu'elle a subi des pressions externes.
Mais là, moi, j'aurais assez envie de poser une question à mes collègues de table. Est-ce que pour vous, il existe qu'un seul type de violence conjugale, et donc qu'un seul profil d'auteur, parce que c'est vrai que là on parle de l'auteur type, de la victime type, mais finalement est-ce qu'il n'y en a qu'une ou est-ce qu'il y en a plusieurs ?
Alors non, moi je ne vois pas qu'il y ait un auteur type ou une victime type. Et puis les causes sont, comme on l'a dit, multifactorielles et vraiment très diverses d'une situation particulière à une autre. Autant parfois c'est une situation de chômage, autant une autre fois ce sera une situation de stress parce que poste à responsabilité. Effectivement, ça peut être parfois le fait d'être amendé sur la route en rentrant du travail où on a eu déjà une mauvaise journée, qui est un facteur supplémentaire. Enfin, voilà, c'est vraiment multiple.
Parce que comme vous disiez, des fois, c'est pas tous les jours, c'est à un moment donné. Ça peut être que deux jours dans le mois, et puis voilà. Donc ces violences-là peuvent être créées à cause d'un autre...
Non, mais alors là, ça s'explique aussi par rapport au cycle. Quand on dit que c'est pas tout le temps, généralement, une période qui suit... une violence, elle est justement une période d'accalmie, puis même de lune de miel, comme on l'appelle, où le couple va de nouveau mieux, où il y a du pardon, etc., avant de repartir vers un nouvel acte de violence. Donc, un acte de violence, il est généralement suivi par autre chose qu'un acte de violence.
On s'est quand même amusé à regarder le profil. Alors, à la fin, il est caricatural, parce qu'il y a... On est dans une analyse multivariée, donc forcément, il ne peut pas y avoir un seul profil, mais il y a quand même une constante qui ressort, c'est qu'il est masculin, je le préciserai tout à l'heure, il a 35 ans environ, 30 et 35 ans, il boit de l'alcool, il a des dettes et des poursuites, il a un degré d'instruction plutôt faible, avec un revenu plutôt bas. Et voilà, ça fait déjà une constante par rapport, ça c'est le profil dominant. Et alors il existe, maintenant à quoi ça sert de le savoir ? Je veux dire, c'est pas ça qui va nous aider à travailler mieux ou à diminuer les violences. Là, on est juste dans les réalités sociales. Et puis il habite un quartier normalement où il y a une densité de population qui est supérieure à la moyenne avec une diversité sociale qui est relativement faible. Voilà, ça c'est la caricature de l'auteur des violences. Mais c'est pas anormal quand on va regarder les situations difficiles. C'est rarement les gens qui se sentent bien, qui sont heureux, qui ont les moyens avec une villa et dans le tout va bien qui vont exercer s'exercer réciproquement des violences. En tout cas, il y a moins de raisons. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, hein, mais il y en a immensément moins par rapport aux pressions, aux dimensions psychosociales, on va les appeler comme ça, si on doit en faire une catégorie avec un tout. Et dans cette dimension-là, effectivement, on retrouve une particularité.
Il me semble qu'il y a une question au fond de la salle. Deux questions. Madame.
Je voulais savoir si les gens qui sont violents ont subi des violences étant jeunes, en fait. Est-ce que ça se retrouve ou pas
dans leur comportement ? Oui. c'est un facteur de risque, ça veut dire qu'il n'y a pas de déterminisme, ça veut dire qu'on trouve parmi les auteurs de violences une plus grande proportion de personnes qui ont subi des abus que parmi les personnes qui ne sont pas violentes, mais on trouve aussi parmi les victimes une plus grande proportion de personnes qui ont subi des violences dans l'enfance. Et puis, il y a toute une série d'enfants, fort heureusement, qui ont été soit témoins de violences, soit victimes directes de violences, qui ne deviennent ni auteurs, ni victimes à l'âge adulte. Donc, ça fait partie de cette nébuleuse des facteurs de risque. Donc, on entend souvent la transmission intergénérationnelle, etc. Donc, c'est vrai que ça s'est retrouvé, mais c'est pas nécessaire et c'est pas suffisant.
Par contre, alors, au niveau de la prise en charge des enfants, on a fait immensément de progrès ces dernières années dans le canton de Neuchâtel. Donc, la police signale aux services de protection de l'enfant et de l'adulte systématiquement les situations où des enfants ont été victimes secondaires. Hein. Alors, primaire, c'est évident, ils ont été tapés ou ils ont été violentés, bien sûr qu'on les signale. Mais ce qui est nouveau, c'est que les victimes secondaires, ils ont assisté aux scènes de violence de leurs parents. Alors, ce signalement devient une prise en charge. Et c'est très, très important de le faire parce que la corrélation est énorme entre le fait d'avoir... C'est pas systématique, évidemment, mais la corrélation est énorme entre le fait d'avoir vécu des violences, d'avoir cette norme qui est ancrée dans une échelle de valeurs et le fait de les reproduire plus tard. Et cette prise en charge, elle est pratiquement nécessaire, souvent avec un suivi psychologique aussi, et une thérapie de couple pour autant que celui-ci ne se sépare pas suite aux violences, bien entendu. Et c'est cher, mais c'est un investissement. C'est un investissement parce que par la suite, évidemment, on espère voir les violences de couple au sein du couple diminuer parce que ces prises en charge auront été systématisées. Je pense que c'est un bon calcul.
Vous avez décrit le profil de l'agresseur.
Je m'excuse, juste une chose. Monsieur Vandal aurait juste voulu intervenir encore par rapport à ça.
À propos de cette question, c'est un travail que nous faisons rigoureusement et systématiquement. Le recueil anamnestique qui va nous montrer dans quelle mesure un auteur lui-même a été victime, témoin, éventuellement auteur d'ailleurs antérieur dans différents moments de sa vie. Et on va systématiquement avec lui revisiter son parcours existentiel en essayant de mettre en exergue tous ces moments-là. Et pas seulement dans la famille, pas seulement dans le couple parental ou grand-parental, mais aussi à l'école, dans la société civile, dans le service militaire, enfin tous ces endroits où il a vécu des situations de communauté, d'échange.
Monsieur, pardon, c'est bon. Monsieur, votre question.
Oui, merci, excusez-moi. Vous avez décrit le profil de l'agresseur, je pense qu'il y a aussi un profil de la victime. Si je tape ma femme, elle va faire les valises, ça c'est évident. Donc je pense qu'il y a une relation étroite entre l'estime de soi et cela se laisser taper dessus. Encore une remarque, je n'ai pas digéré la réponse avant qu'il n'y a pas de culture, pas de différence culturelle. On sait éperdument que dans la majorité des Indiens, la femme, on tape dessus, c'est presque normal. J'exagère un tout petit peu, vous comprenez. C'est en train d'évoluer, mais il faut encore un long chemin. On n'est pas aux Indes, d'accord, on est en Suisse, mais on a pas mal d'immigrants, donc je pense qu'il y a quand même des différences là.
Alors, pour la proportion des femmes que nous rencontrons, la seule nationalité qui sort du lot, parce qu'on a tout type de nationalité, tout continent, la seule qui sort du lot, c'est la femme suisse. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas toutes les autres nationalités, enfin plein d'autres nationalités qui sont représentées, mais vraiment la seule qui sort du lot, c'est la femme suisse. Oui.
Qu'est-ce que vous en...
Juste pour en revenir à ces nationalités, quand on regarde quelles sont les nationalités qui correspondent aux auteurs de violences et aux victimes de violences, elles sont strictement proportionnelles aux communautés de nationalités dans notre canton. Donc c'est d'abord la communauté portugaise, ensuite française, italienne, elle est un peu plus loin, donc je ne sais pas pourquoi, mais ensuite kosovar, etc., etc. Et puis quand on va regarder qui sont les étrangers dans notre canton, les différentes nationalités, on retrouve ces mêmes proportions. Donc c'est intéressant quand même.
Je crois que c'est cette idée que la violence touche... certaines cultures, c'est aussi une dérive des recherches nord-américaines où vous avez la différence entre les communautés afro-américaines et les communautés blanches qui sont en fait pas nécessairement des différences culturelles, mais avant tout des différences socio-économiques, donc des gens qui n'ont pas les mêmes ressources, pas les mêmes accès. Et c'est vrai qu'à l'époque, dans ces premières recherches, on trouvait que l'ethnie ou la race, comme ils disent là-bas, était en fait un facteur de risque. Mais dans les recherches qui ont été menées en Europe, l'immigration n'est pas un facteur de risque. Donc peut-être que vous allez trouver différentes cultures dans différents services, mais au niveau des sondages, on demande à l'ensemble des gens s'ils sont victimes ou pas et qu'on compare les risques, le fait de provenir d'une population immigrante n'est pas un facteur de risque. Donc toutes les personnes sont concernées de la même manière. Maintenant, c'est vrai qu'une femme immigrée qui ne parle pas la langue, elle va avoir peut-être de la peine à accéder à certains services. Donc à ce niveau-là, il y a une inégalité, c'est vrai, mais pas nécessairement au niveau du risque direct.
Alors, monsieur sur ma gauche avait une question, mais où est le micro ? Merci beaucoup.
Oui, alors pour revenir un peu au point de départ, parce que là on parle pas mal des causes, je voulais voir un peu pour qu'est-ce qui se fait contre ça. Pour le service des auteurs, vous avez dit que vous voyez de plus en plus d'auteurs au fil des années. Je voulais d'abord savoir à quoi est-ce que c'est dû d'après vous. Est-ce que c'est la coopération peut-être avec la police qui aide ce point-là, ou bien c'est les auteurs d'eux-mêmes, par l'information des médias ou autres, qu'ils viennent se présenter à vous.
De nouveau, vos deux hypothèses sont pertinentes, effectivement. Nous collaborons actuellement à la formation des aspirants policiers depuis plusieurs années, ce qui fait que des policiers aujourd'hui sur le terrain nous connaissent, savent que nous existons, savent ce que nous faisons, ont identifié le programme thérapeutique que nous proposons aux auteurs et peut-être sont-ils plus enclins à ce moment-là à informer l'auteur de ses moyens d'aide, probablement. Maintenant, nous espérons aussi qu'avec le temps et à force d'essayer d'apparaître dans la société civile, que l'on parle un peu de nous aussi, de ce service pour auteurs de violences conjugales, même si ce n'est pas forcément, excusez-moi, le plus sexy du paysage, nous soyons un peu mieux connus et que nous soyons aussi mieux identifiés comme un service d'aide, pas comme un tribunal ou comme une peine imposée par la justice. Maintenant, il est clair, et c'est M. Gognac qui l'avait mis, alors on a beau jeu de l'amener ici, que le canton de Neuchâtel bénéficie d'un signalement, d'une annonce de police. Quand un policier intervient sur une scène de violence conjugale, il informe l'auteur de notre existence et lui demande de se positionner. Et cet auteur va devoir signer un document à travers lequel, soit il renonce à tout contact avec nous, mais il prend sa responsabilité, soit il nous autorise à entrer en contact avec lui. Ce qui fait que systématiquement, dès que nous recevons une annonce de police, un signalement, dans les 24 heures qui suivent, on va lui téléphoner. Battre le fer pendant qu'il est chaud, c'est un peu trivial, mais c'est un peu ça de ce dont il s'agit, pour essayer de fixer au moins une première entrevue, un premier entretien d'évaluation de sa situation. Probablement, avec le temps et peut-être l'expertise aidant, nous sommes nous aussi plus proactifs et que nous allons plus volontiers chercher tous ces auteurs.
Mais quand j'ai introduit ce formulaire, c'était par mimétisme avec le formulaire des signalements « l'avis ». Aide aux victimes. Donc systématiquement, si la personne le voulait, elle pouvait renoncer. Hein, on signalait les cas de victimisation à la LAVI, qui elle-même reprenait contact avec les victimes. Puis quand on a introduit le service des auteurs de violence, on voulait lui garantir le succès, évidemment. Donc j'ai redéfini le même formulaire pour les auteurs, sachant qu'eux-mêmes seraient peu enclins à prendre spontanément contact avec le service, il valait mieux que ce soit le service qui prenne contact avec eux. Puis ce formulaire, quand ils s'engagent, quand ils font leur choix par rapport à ce qu'ils auraient proposé, donc je renonce, je refuse que vous donniez mes coordonnées au service des auteurs de violences conjugales, alors ça veut dire que ce formulaire, il est quand même joint au dossier. Ça veut dire qu'un jour, s'il y a récidive ou jugement de sa situation, il y aura quand même un magistrat qui l'aura sous les yeux puis qui va se dire, tiens, il a refusé d'aller consulter, en tout cas une première fois. Et il va peut-être l'y astreindre par la suite, simplement parce qu'il a refusé. Ou en tout cas, il va venir sur le sujet avec ce prévenu avec lequel, duquel il va devoir décider du destin, bien entendu. Et ce n'est pas anodin. Hein. S'il n'y a pas de trace, évidemment, on n'en parle pas et puis on est dans l'insouciance. On ne s'en soucie même pas, d'ailleurs. Par contre, quand on l'a sous les yeux, ça prend une autre dimension. Donc l'idée, c'était d'obtenir, pour les situations les plus graves, évidemment, d'obtenir ce choix et cette orientation pour le magistrat, dans les cas futurs même. Hein. Ce n'est pas forcément pour le jugement de cette affaire-là, mais s'il y a récidive, s'il y a encore récidive, évidemment, il y aura toujours plus de poids. Puis à un moment donné, l'idée est d'amener cet auteur à aller consulter pour qu'il sorte de son canevas d'homme violent.
Madame, vous aviez une question.
Est-ce que des enfants qui sont, bien sûr, victimes des violences conjugales de leurs parents, indirectement victimes, est-ce qu'il leur arrive parfois d'aller eux-mêmes, spontanément, je pense à des ados, les dénoncer à la police ?
Alors, sur les milliers d'affaires que j'ai vues, je n'ai pas le souvenir d'une situation où l'enfant a spontanément dénoncé à la police. Par contre, il en a parlé à l'école. Par contre, il en a parlé au médecin scolaire. Par contre, il en a parlé à une camarade ou un camarade qui en a parlé à ses parents, qui a pris contact avec nous pour nous dire qu'il y avait des situations qui étaient insupportables, ou à sa professeure ou son professeur.
où ça arrive qu'on ait des téléphones de ce type-là, sur les permanences téléphoniques.
Tu parlais auparavant d'astreindre. Quels sont les indicateurs et comment peut-on astreindre des personnes suite à des violences? Quels sont les indicateurs, quels sont les outils à disposition pour astreindre, obliger des gens après des violences à soigner,
mais
à consulter?
On ne peut pas obliger à soigner, c'est comme la toxicomanie. Si on dit maintenant tu dois être abstinent, va te faire soigner, mais ça ne veut rien dire. Il faut être volontaire. Donc il faut créer les conditions cadres pour que cela fonctionne. Et puis c'est le métier de mon voisin finalement. Mais il faut que la personne puisse avoir au moins un contact pour savoir s'il y a une possibilité de la conduire à, de l'accompagner à, de la forcer certainement pas. En même temps, la violence, ben oui, je l'ai comparé volontairement à une addiction, parce que oui, il y a des gens qui sont addictifs de ces situations de violence. Donc ils en ont besoin pour pouvoir continuer. Ils pensent en avoir besoin. C'est comme tout produit psychotrope. Et à partir de là, il y a tout un travail alors, qui est le back-office de la police. Mais nous sommes le premier contact qui sert à allumer une première lampe. Voilà. Alors il y a des gens, moi j'ai connu l'ancien droit, avant le code de procédure actuel, le code de procédure pénale actuel, on avait une garde à vue de 72 heures à disposition. Après, alors 24 heures à la signature de l'officier, puis ensuite un petit téléphone au juge d'instruction, on prolonge une nuit supplémentaire, égale 48 heures, un petit téléphone égale 72 heures. Et je vous assure qu'ils avaient le temps de réfléchir. Ce ne sont pas des criminels en plus, ce ne sont pas des délinquants quand on compare leur profil et puis leur motivation aux voleurs par effraction, pas du tout. Donc ils ressemblent pas, ils ne sont pas dans ces mécaniques-là, ils sont dans une histoire d'amour qu'ils gèrent mal. Ils gèrent mal leur relation tout court, mais quand ils avaient le temps de réfléchir, on pouvait aborder ces sujets de manière beaucoup plus efficace qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec le nouveau code de procédure, c'est à la première audition, avant la première audition, il a droit à un avocat. C'est insupportable pour la victime. C'est déjà insupportable pour la victime. Ça explique peut-être la chute en 2011, d'ailleurs, du nombre d'affaires dès le moment où il a droit à un avocat. Deuxième chose, c'est que s'il nous dit « Ouais, mais elle m'a aussi insulté, elle m'a aussi poussé », égale insulte et voie de fait, alors la victime, qui a été beaucoup plus violentée que lui, s'il veut porter plainte ou s'il nous dit que c'est réitéré reprise, la victime devient prévenue. Donc pour une même affaire, c'est pour ça qu'il faut se méfier des statistiques de police quand on compte le nombre de victimes et le nombre d'auteurs, pour la même affaire, on a deux prévenus, deux victimes. Et c'est insupportable pour la vraie victime. Alors j'ai demandé à un étudiant de master d'aller regarder dans les récits des deux personnes qui était responsable, à partir de quel moment et qui était responsable du mécanisme des violences. Alors si dans mes statistiques j'ai à peu près 40% de femmes qui sont auteurs de violences, je vous assure que dans l'étude du master basée non pas sur la volonté de se plaindre du responsable de ces violences, l'homme en particulier, c'est 94% des affaires où l'homme est responsable de la violence. Mais ils sont deux. S'il la tape, elle tape aussi, elle se défend. Est-ce qu'on la considère comme instigatrice des violences? Mais de temps en temps, elle l'a poussée à bout, parce qu'il a mis l'assiette là où il ne fallait pas, puis il lui dit « pourquoi tu remets ta assiette, je t'ai déjà dit », puis pan, il lui tape dessus. Est-ce qu'elle fait partie du mécanisme des violences? Est-ce qu'on peut lui donner une responsabilité d'avoir été frappée, insultée, injuriée, ou rabaissée, ou séquestrée dans la salle de bain, ou que sais-je, ou contrainte de ne pas pouvoir téléphoner à la police parce qu'il lui a cassé son téléphone? Non, certainement pas. Donc on a fait ce travail, et puis alors il y a des défenseurs, des pères, P-E accent grave R-E-S, qui m'écrivent à chaque fois que je dis ça à peu près 25 pages de mail parce qu'ils supportent pas qu'on mette la faute sur les hommes. Mais oui, ce sont les hommes qui sont le plus gros vecteur des violences conjugales, à n'en pas douter. Je dis pas ça parce qu'il y a beaucoup de femmes dans cette salle.
Alors, on pourrait passer à la thématique suivante qui est qu'est-ce qu'on peut faire là contre? Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous faites en tant que professionnel pour éviter la récidive ou simplement éviter une première occurrence de violence domestique? Et plus largement, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que citoyens, en tant que société,
pour essayer de, pas de régler le problème, mais disons d'améliorer la situation. Qui veut commencer ?
Je veux bien commencer. Nous, on constate à Solidarité Femmes deux choses sur ce début d'année 2014, enfin sur cette année 2014. C'est un nombre de situations de jeunes femmes plus élevé que de toutes jeunes femmes, plus élevé que d'habitude, ou de situations de femmes qui mettent fin à leur première relation significative. Et l'association Solidarité Femmes a décidé d'acheter un spectacle à la troupe Caméléon et de le présenter à partir de la fin du mois de novembre dans toutes les écoles obligatoires du canton, enfin toutes les écoles qui veulent bien acheter le spectacle, soyons clairs, pour les élèves de fin de scolarité obligatoire, puisqu'on remarque quand même que c'est au moment de la construction de la première relation significative qu'il y a quelque chose à faire, et notamment au niveau des représentations. C'est quoi un jeune homme, c'est quoi une jeune femme, et des stéréotypes qui ont la vie dure, comme effectivement le jeune homme qui doit être beau, grand, fort, et la jeune femme qui doit être frêle, jolie et fragile. Et ça perdure encore trop au niveau des jeunes adolescents qui ont tout à construire et à se construire et à construire ensemble. Donc là, c'est quelque chose, l'accent sur lequel on aimerait mettre la prévention cette année, c'est les jeunes. Et puis après, on continue toujours dans la prévention dans les écoles post-obligatoires.
Alors moi, je vais parler au niveau pas éducatif et préventif. Là, il y a énormément de choses à faire. Je vais vous laisser en parler. Au niveau policier et judiciaire, je pense que la partie spéciale du code pénal, c'est celle qui fixe la quotité de la peine, actuellement n'aide pas du tout à dissuader un certain nombre d'auteurs de violences à entrer en traitement et ou à ne pas récidiver. Je le dis de manière assez crue, mais aujourd'hui, on est dans le régime des jours amendes avec sursis. C'est un peu technique. Avant, on était dans les peines de prison avec sursis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand on avait un mari qui donnait des coups de poing à sa femme, le juge lui mettait volontiers 1 à 2 mois de peine de prison avec sursis. S'il récidivait, il allait purger 30 jours en prison ou 60 jours en prison. Ce n'est pas un criminel et je vous assure qu'il réfléchissait un petit peu sur son destin. En tout cas, on lui expliquait son futur destin. S'il allait en prison, c'est lui qui allait être la femme par rapport au vrai profil de criminel qui peuple les prisons. Et donc, il allait se faire violenter. Aujourd'hui, s'il n'a pas de revenus, il aura toujours 30 jours, donc le mois dont je parlais avant, voire 60 jours, mais à 1 franc. Donc il devra payer 30 francs à 60 francs avec sursis. Et je le vois dans tout, vous dites non, mais je le vois dans les ordonnances pénales. Alors c'est monté à 10 francs. Alors ça, on a commencé à 1 franc, je l'ai connu. On l'a monté à 10 francs, mais ça reste relativement peu dissuasif. Et j'ai vécu pendant 3 ans avec le régime des 1 franc. Ça veut dire que c'était 30 francs avec sursis qu'il n'avait pas à payer. S'il récidivait, il devait payer les 30 francs. Donc c'était pas terrible. Aujourd'hui, on a un peu amélioré les choses en faisant x10, mais on reste à 300 francs par rapport à 30 jours de prison. On n'est pas encore dans... Alors je réclame pas de la sévérité, mais je vous dis, s'il y a une diminution du nombre d'affaires annoncées à la police, donc de judiciarisation d'affaires, où on reconnaît le statut de victime pleinement, ce système-là frustre énormément les victimes et les milieux associatifs qui encadrent les victimes et qui les dissuadent de judiciariser leur affaire parce qu'elles auront une deuxième victimisation due à la faiblesse des peines. Et ça, je vous assure que je le vis de commentaires, tant du monde associatif que des victimes elles-mêmes, et a posteriori, celles qui ne le savaient pas, quand elles le découvrent, et je vous assure que c'est une source de frustration qui est juste gigantesque. Et je ne connaissais pas cette frustration-là, avec ce droit qui ne reconnaît pas finalement une quotité de la peine en fonction de la souffrance de la victime. Je ne le connaissais pas avant et ça a dû jouer un rôle parce que notre société entre 2010 et 2011 n'a pas changé. Il y a une seule chose qui a changé, c'était bel et bien les règles de droit et l'application du droit en particulier. Et là, il y a quelque chose qu'on peut vraisemblablement améliorer. Je pense que c'est un des facteurs principaux au niveau policier. Et sinon, rester au bon niveau, on continue de veiller à avoir un monitorage comme ça du travail des policiers pour les garder. On a encore eu cette année un objectif au mois de mai, c'est-à-dire qu'on regarde tout le travail des policiers, on l'ausculte pendant un mois, et puis on apporte des correctifs le mois suivant, soit envers les chefs en leur fixant à eux-mêmes des objectifs d'amélioration, soit directement auprès des collaborateurs. Donc on reproduit ça chaque année pour que notre qualité de travail ne baisse pas. Et puis tout le conseil aussi, l'accompagnement. Il n'y a pas que le travail technique du policier, il y a aussi de pouvoir répondre aux questions, solliciter les questions pour pouvoir aider à des orientations ou à une meilleure compréhension de ce qui est en train de se passer au niveau d'une procédure qui reste, ma foi, très compliquée et méconnue de la plupart des gens.
Oui, madame, allez-y. Attendez, le micro arrive derrière vous.
Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Un homme qui tape sa femme, en fait, paye 300 francs et voilà. Ça suffit.
Non. Avec sourcil, bon, il ne les paye pas.
D'accord. La deuxième fois, il le paye.
La deuxième fois, ok. Admettons qu'une personne qui fait une violence, un acte de violence à quelqu'un dans la rue, le même acte, paiera 300 francs avec sursis et c'est fini aussi ?
C'est la même chose.
C'est la même chose.
Alors, ce que je dois corriger pour faire plaisir aussi à André, je le vois gigoter, prendre des notes, c'est que quand on a changé ce système de quotité par rapport à la sévérité, finalement, quand on a changé ce système, tout le monde a dit il va y avoir énormément de récidivistes parce que ça sera plus dissuasif, etc. etc. Ça n'a pas été le cas. La violence, paradoxalement, par rapport à nos a priori, a diminué dans notre société, par rapport à ce que constate la police et puis ce qui lui est annoncé. Mais aussi dans les sondages. Je viens de consulter un sondage 2014 avec des pré-résultats. On voit une diminution qui est marquée par rapport à l'époque où on avait une bien plus grande sévérité. Alors moi, je m'exprimais surtout en fonction de la frustration des victimes. Ce système induit une espèce de victimisation, une deuxième victimisation par rapport à une impression d'injustice générale. Ce n'est pas la faute des juges ni des procureurs, il faut qu'appliquer ce que les parlementaires ont construit sur un plan législatif. Donc c'est la faute au Conseil national et au Conseil des États et un peu à nos élus. Il est bien clair qu'il n'y a pas le sursis systématique. Donc, heureusement, mais normalement, c'est la règle. Et puis, plus on monte dans la gravité, évidemment, si la personne a commis des violences graves, des lésions corporelles graves, voire une tentative de meurtre, elle risque de ne pas avoir le sursis parce qu'il y a une quotité qui est prévue dans la partie spéciale du code pénal qui prévoit la peine de prison.
Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être juste s'éloigner un peu des victimes, revenir sur les auteurs? Mais j'ai envie de vous demander, Monsieur Vandal, qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement, pour aider ces auteurs?
En matière de prévention, le fondateur de Vires, qui est l'organisme, le premier organisme roman qui s'est mis à travailler avec les auteurs de violences conjugales, avait cette métaphore que quand une baignoire débordait, c'était une bonne idée d'écoper, mais c'était aussi une bonne idée d'essayer de couper l'eau. Nous travaillons à couper l'eau. En traitant les auteurs, et il est vrai que nous sommes plus dans l'axe curatif que préventif, certainement toute notre activité, c'est plutôt du curatif que du préventif, mais en fait, nous travaillons aussi à la prévention des rechutes. Un auteur de violence conjugale ne va que rarement se contenter d'un épisode. Malheureusement, le phénomène, le mécanisme de la violence demande à être répété. C'est dans la nature des choses. Et en travaillant avec un auteur de violence conjugale, nous allons travailler à ce qu'il ne récidive pas. Donc nous allons nous aussi travailler à faire diminuer, au fond, le nombre, l'ampleur du phénomène de la violence conjugale. Voilà. Comment nous travaillons avec les auteurs ? Alors, nous utilisons un programme qui a été élaboré il y a bien des années à Québec par une association qui s'appelle Option, une alternative à la violence, qui est très utilisée en francophonie, dans le monde francophone, qui est assez lourd. C'est un programme thérapeutique. Je ferai juste une petite différence. En Suisse, on peut utiliser des programmes d'apprentissage un peu comme on rééduque un délinquant de la route. Et puis on peut aussi utiliser des programmes thérapeutiques, c'est-à-dire d'aller un peu plus loin pour faire prendre conscience à l'auteur de la non-recevabilité de ses comportements et surtout des moyens qu'il peut mettre en œuvre pour en changer. Notre programme est assez lourd, assez chargé. Quand nous avons un contact avec un auteur et si nous allons jusqu'au bout du processus, il est fort possible que nous soyons 2 ans en contact avec lui, 2 années durant. C'est dire aussi qu'un auteur qui s'engage dans un programme thérapeutique, qui connaît, hein, qui est bien informé de la durée que ça va prendre, il le fait, enfin on espère, à tête reposée. C'est-à-dire que quand il s'engage, il a bien compris qu'on n'allait pas en rester là, que ça allait aller assez loin, je dirais. Hein. Et nous travaillons avec... dans ce programme, avec des axes de travail comme le dévoilement, il n'est pas question de ne pas parler de la violence, la responsabilisation, la connaissance de la loi et le positionnement par rapport à celle-ci. Beaucoup d'auteurs, d'abord, pensent que ce qu'ils ont fait n'est pas si illégal que ça, après tout, et qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat, et qu'on fait bien des histoires avec peu de choses. Et puis, petit à petit, en travaillant les formes de la violence... Les conséquences de la violence peuvent prendre conscience qu'au fond, la loi, c'est aussi fait pour eux, c'est aussi fait pour les protéger, eux, et protéger leurs victimes. Ça, c'est un axe de travail assez important. On a un axe de travail qui est assez particulier, peut-être un peu surprenant quand on parle d'auteur, c'est de les aider à apprendre à s'auto-protéger. L'auteur est souvent dans un déficit de cette capacité d'auto-protection. Un exemple assez courant, c'est tout à l'heure, on évoquait des exemples de stress où on rentre à la maison chargé. L'auteur est souvent incapable de trouver des moyens pour mettre fin à cette charge-là. Il est souvent incapable de trouver des moyens pour échapper à une situation où il sent pourtant bien que ça va se terminer en acte de violence. Parce qu'il connaît le schéma. Il sait très bien que ça commence par une assiette mal posée et que ça finit par un pugilat. Et il est incapable de s'extraire de cette situation. Il est incapable de s'auto-protéger, mais aussi, bien sûr, de protéger la victime. Donc, on va travailler sur ces axes-là. Il y a un travail qui se fait tout au long, de la première à la dernière minute. C'est de travailler sur les émotions. Ces personnes, malheureusement, sont un peu des handicapés de l'émotionnel, ont beaucoup de peine à gérer, pas seulement la colère, mais ils ont aussi beaucoup de peine à gérer la peur, ils ont beaucoup de peine à gérer la joie. Et parfois même, c'est un extraordinaire mélange, parce que c'est pas simple forcément pour ces personnes-là, d'abord d'identifier leurs émotions, ensuite de les nommer, après quoi d'essayer de travailler avec elles et d'avoir une espèce d'ascendant sur ce monde émotionnel. Je ne sais pas si c'est suffisant.
J'aimerais juste ajouter quelque chose. Je ne sais pas si vous savez pourquoi on a créé, puisque j'ai contribué à créer le service des auteurs de violences conjugales, on l'a créé dans un contexte très particulier. Il faut savoir qu'il y a 12 femmes qui sont mortes de violences conjugales, donc elles ont été tuées par homicide volontaire depuis 2000, l'année 2000, en 14 ans. Dans le canton. Alors, il y en a 25 par année qui sont tués en Suisse, entre 25 et 30 sur 50 à 60 homicides. Voilà. Mais dans le canton, il y en a 12 entre 2000 et 2014. Sauf qu'il y en a 10 qui ont été tués entre 2000 et 2004. Ce qui nous a incité, effectivement, c'était assez choquant de voir toutes ces femmes qui mouraient. Et puis, on ne pouvait pas rester les bras croisés. Donc, on a créé une loi, on a créé un débat sur la violence conjugale, et cette loi nous a permis de mettre en place toute une infrastructure autour, toute une procédure autour des violences conjugales, pour qu'enfin on les prenne en charge. Et je me souviens d'un des homicides qui a été relâché par la police parce qu'il n'y avait pas motif pour un juge d'instruction de l'arrêter, qui, 2 jours après, ce n'était pas en sortant de la police, je vais tuer ma femme, mais 2 jours après, tuait sa femme. Et là, on s'est dit, mais on n'offre rien comme alternative à des personnes qui montrent un potentiel de violence évident qui peut conduire à l'homicide. C'était prouvé, on en avait eu 10 en moins de 4 ans. Et c'est la raison pour laquelle on a absolument voulu poser une alternative à ces personnes et puis de pouvoir avoir ce premier contact, voir un suivi pour essayer de détricoter les mécanismes qui amènent à cette violence, qui ont amené à supprimer 12 femmes dans ce canton. Et depuis 2004, il n'y en a eu que 2. On peut s'en réjouir quand même, parce que ça fait depuis 2004, ça fait quand même 10 ans la dernière étant une femme abattue d'ailleurs, assassinée par son mari médecin avec par une balle dans la tête. Donc on a réussi quand même notre objectif. Je pense que la violence diminue de manière générale dans notre société. Je pense qu'elle diminue aussi de manière générale par réflexivité hein, dans les foyers. Et on a mis des structures, il y a encore à perfectionner, bien évidemment. Le meilleur investissement pour encore faire diminuer la violence, je pense que c'est la prévention massive, mais elle coûte immensément cher, auprès de tous les enfants, notamment dès l'âge de la crèche, dès le plus jeune âge, en leur donnant des outils autres que la violence pour réagir face à des frustrations simples. Il y a des programmes de prévention qui ont été évalués, qui ont montré des résultats spectaculaires, où ceux qui avaient suivi ce genre de programme de prévention avaient des meilleurs résultats scolaires, commettaient moins d'infractions que ceux qui n'avaient pas suivi, évidemment, commettaient moins de violence au sein du couple, etc. etc. Donc c'est juste des vraies réussites. Et si aujourd'hui, je devais avoir une baguette magique, c'est d'avoir quelques millions à investir en créant de l'intelligence, mais aussi des programmes de prévention.
En parlant de récidive, je voulais savoir dans les cas que vous avez traités, d'une part, combien il y avait de nombre de personnes qui récidivaient, et puis d'autre part, dans le nombre général de personnes qui commettent des violences conjugales, le pourcentage général.
Le pourcentage de récidive au niveau des interventions policières et des dénonciations, il est inférieur à 10%. Et alors on a des champions du monde, donc des couples qui nous occupent jusqu'à 10 fois en une année, où manifestement ils ne veulent pas se séparer. Et à un moment donné, il y a même une lassitude hein, des agents. Ah, encore eux. Donc la qualité du service devient bien moins bonne petit à petit, mais pour tous les partenaires hein, qui gravitent autour de ces couples-là, juste épouvantables, qui se complaisent dans leur misère et leur violence. Mais ce n'est pas volontairement, hein, bien évidemment. Donc il y a toute une, vraisemblablement une explication. Ils sont pratiquement intouchables. Mais pensez qu'il y a 10%, moins de 10% pour au moins une récidive. Puis quand on passe à 3 récidives, alors il y a beaucoup moins, puis 4 encore moins, puis 5 encore moins. Et puis les exceptions, ce sont nos champions.
Sur la septantaine de personnes que nous avons traitées, donc qui sont allées au bout du programme, nous avons eu connaissance de 2 rechutes, de 2 récidives, donc de 2 personnes qui ont, après quelques mois, voire quelques années, réitéré des faits de violence. C'est aussi intéressant de noter que ça correspondait malheureusement à des rechutes dans leur dépendance à l'alcool.
Et encore une autre question. C'était... de savoir comment expliquer qu'une personne va être violente dans un couple et puis ensuite elle va passer à un autre couple, par exemple se remarier, puis là elle va se calmer après, sans avoir forcément suivi de traitement en fait entre deux.
Je suis pas sûre qu'elle se calme. Non, ce que la recherche tend à montrer, notamment du point de vue des victimes aussi, c'est qu'il y a souvent plusieurs relations violentes qui se succèdent. Donc, c'est pas nécessairement parce qu'on met fin à une relation. On a un peu tendance toujours à considérer que ça va mettre fin aux violences. C'est pas toujours le cas. Et puis, je vous rappellerai aussi que la période de la séparation est une période à risque, notamment on parlait de l'homicide conjugal. Les femmes courent en général six fois plus de risques d'être victimes d'un homicide au moment de la séparation. Donc de réclamer la séparation comme solution absolue sans y poser un cadre, c'est un peu dangereux aussi. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut un accompagnement et notamment une identification des situations à risque, parce que mettre fin à la relation, ça peut faire effet de catalyseur en fait. C'est une période extrêmement délicate. De même, on parlait de la grossesse avant. C'est aussi une de ces périodes charnières dans les histoires des couples.
J'ai introduit un nouvel outil, c'est ce que j'appelle l'intermédiaire social, par rapport aux couples qui vivent séparés, mais qui sont encore liés par des enfants. Et on a remarqué qu'il y a des violences qui étaient elle n'est pas systématiquement, mais récurrente, qui était exercée au moment où monsieur vient chercher les enfants parce qu'il en a la garde pour un week-end, qu'il arrive en retard. Donc il se fait voir, il reçoit un reproche et puis il explose, ou alors il a bu et puis elle ne veut pas lui donner, etc. Donc l'intermédiaire social, c'est quelqu'un dans le cercle du couple qui accepte de jouer ce rôle d'intermédiaire, donc d'accompagner le père quand il va chercher les enfants, mais lui-même allant chercher les enfants, l'intermédiaire, à la place du père, comme ça, ça évite. Puis s'il doit y avoir une correspondance écrite par courriel la plupart du temps entre le couple, alors que les deux s'engagent à l'envoyer à l'intermédiaire qui enlève tous les noms d'oiseaux, toutes les phrases qui pourraient constituer une infraction, et puis fasse la transmission de l'information, etc. Ça a contribué énormément à diminuer les situations de récidive ou de violence récurrente. Et puis, un petit clin d'œil aussi, les auteurs de violences, quand ils se séparent de leur conjointe, souvent reproduisent des violences avec une nouvelle conjointe. Mais ce qui est étonnant, c'est que des conjointes qui étaient violentées, quand elles se remettent en couple avec un homme, ont choisi un profil d'homme qui recommence des violences sur elles. Et là aussi, il y a quelques recherches qui sont intéressantes, où le statut de victime est perpétué comme ça, indépendamment du caractère violent intrinsèque de la première violence, de la personne qui a exercé la première violence. Intéressant quand même, ça nous laisse un petit peu perplexes, mais ça reste une partie d'une réalité.
Non, moi, je voulais juste rebondir en fait sur la question de l'intervention, parce que c'est vrai que moi, il y a quelque chose qui me dérange dans ce qu'on entend parfois, c'est l'idée du modèle unique. Et moi, je suis convaincue qu'il n'y a pas qu'une situation de violence conjugale. Donc, toutes les situations répondent à des mécanismes particuliers. Et du coup, ben, vouloir apporter qu'une seule réponse standardisée, ben, ça ne va pas fonctionner. De la même manière que les intervenants en santé mentale adaptent le traitement, etc. Et c'est vrai que de proposer qu'une seule réponse, qu'un seul modèle, c'est un peu problématique. Donc, ce qu'on essaie de faire actuellement, c'est aussi l'idée de dire, bon, ben voilà, on a tout un arsenal de réponses et on va un peu s'adapter au contexte pour coller au plus près de la situation et pour que ça ait une efficacité. Donc, ça, c'est le premier point. Puis, le deuxième point, c'est qu'il y a plein de choses qui se font à travers le monde, il y a plein de choses qui se font en Suisse. Là où on pêche un peu, c'est au niveau de l'évaluation. Parce que c'est vrai que bien souvent, on introduit des mesures. Puis voilà, ben on a dépensé tellement d'argent pour introduire des mesures, et c'est vrai qu'on se dit que ben notre argent il serait peut-être plus utile directement dans l'aide, etc. Donc on ne va pas forcément évaluer ce qu'on a mis en place, et on ne sait pas toujours comment ça marche. Et il y a une série d'exemples en matière de violence conjugale, de mesures pensées améliorer la situation, qui en fait ont empiré la situation. Notamment, on a vu aux États-Unis... Il y a une pression qui a été mise sur les policiers pour désigner en fait l'auteur responsable dans la situation. Il y avait notamment une pression suite à des affaires où la police n'avait, disait-on, pas fait son travail et qui s'était terminée de manière négative. Et du coup, ce qu'on a observé, c'est qu'on a une augmentation flagrante des situations où, comme disait Olivier Gagné avant, on a deux auteurs. Et on a une augmentation marquée du taux d'incarcération des femmes aux États-Unis pour agression physique liée à des violences dans le couple, parce que personne ne veut prendre la responsabilité de dire qui est l'auteur et qui est la victime. Et dans ces situations-là, vous avez tout à coup une mesure qui est perçue, si vous voulez, comme une mesure en faveur des victimes pour être plus sévère, mais qui a des effets négatifs qu'on n'évalue pas. Et alors en Suisse, il y a actuellement quelques évaluations qui sont en cours, notamment au niveau de la suspension de la procédure en matière de violence conjugale, au niveau de l'éloignement du domicile et de l'expulsion de l'auteur. Mais voilà, donc on attend de voir ce que ça va donner pour voir si d'une part les mesures qui existent sont utilisées. Hein, c'est pas parce qu'il y a une loi, c'est pas parce qu'il y a des programmes, qu'il y a des auteurs qui sont envoyés. Il y a des juges qui restent très réticents à l'idée du programme, donc qui considèrent que ce n'est pas une réponse valable. Donc vous pouvez avoir des mesures d'intervention, des mesures de prévention, mais elles ne sont pas utilisées. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est là, je dirais, le chercheur peut avoir en fait un rôle à jouer en mettant en évidence ce qui est vraiment fait avec les mécanismes en place.
Alors, on arrive un peu au bout du temps qui nous est accordé. Pour terminer, j'aurais voulu savoir si tous les quatre, vous arrivez à vous mettre d'accord. Si on vous donnait une baguette magique, est-ce que vous arriviez à formuler un vœu ? Pas tous en même temps.
c'est ça ?
50 par année, oui.
50 par année, et sur ces 50 homicides, 25 ?
Alors, on va dire entre 50 et 60, parce que ces dernières années, ça aussi, entre 50 et 60. Non, non, et 25 dans le cas, au sein du couple. Entre 25 et 30 au sein du couple. La moitié.
C'est pas rien, monstrueux.
Alors, ma baguette magique.
Ben alors, en cas de baguette magique, et puis pour un petit peu me donner espoir par rapport à, aux séances de prévention qu'on va tenter de donner en fin d'année, ce serait qu'on donne les outils à nos populations jeunes pour réussir à se construire des relations, dans une relation harmonieuse et beaucoup plus égalitaire.
Une baguette, ça ne suffit pas, puisque c'est multifactoriel, donc... Juste pas possible. Non, ça serait d'avoir, je l'ai dit avant, hein, donc je ne vais pas me contredire, donc c'est de pouvoir avoir l'argent à dédier à la prévention au niveau de l'école dès le plus jeune âge. Et je pense que c'est le meilleur investissement actuellement pour préparer la génération 3.0 par rapport à une autre relation à la violence. Ce n'est pas la police qui va empêcher les violences conjugales.
Pour ma part, je suis un homme de terrain, réellement, et je l'ai dit en nous présentant, en présentant notre service, nous aimerions vraiment pouvoir toucher davantage d'auteurs, être au contact avec davantage de personnes, proposer des programmes thérapeutiques, effectivement diversifiés, donc avoir aussi les moyens de diversifier nos outils d'intervention. Ça demande effectivement de l'investissement, ça demande qu'on le mette des moyens dans un service qui pour le moment occupe un demi-poste de travail. Vous imaginez que c'est pas avec ça qu'on va pouvoir réussir à toucher l'ensemble des auteurs du canton de Neuchâtel. Mais ce serait vraiment d'être suffisamment convaincant, suffisamment visible, suffisamment lisible aussi pour que les auteurs sortent eux aussi du bois, sortent eux aussi de leur isolement.
Moi, je pense que ce serait aussi peut-être une plus grande prise de conscience au niveau de la collectivité, du rôle qu'on peut être amené à jouer, simplement en rappelant l'interdit légal, parce qu'on a vu que dans les pays où c'est clairement martelé que ça ne se fait pas, ça joue quand même un rôle. Donc à ce niveau-là, au niveau de la prévention, de l'éducation dans les écoles et à tous les niveaux, et au niveau des services, d'avoir davantage de services ouverts, je crois que c'est vraiment ça qui va nous aider. Je ne pense pas que la recherche en elle-même va régler le problème, mais elle va donner des pistes, disons.
Non ? C'est bon ? Alors voilà, donc on a vu que la conclusion que je tire de tout ça, c'est que c'est une problématique extrêmement complexe, et puis que finalement, le plus important à vous entendre, c'est la prise de conscience et la sensibilisation des personnes qui peuvent être concernées par cette problématique. Et donc c'est aussi à ça que sert ce genre de soirée. Je vous remercie beaucoup d'être venus aussi nombreux, d'avoir posé toutes ces questions qui ont rendu ce débat très intéressant, et je vous souhaite une bonne soirée.